Bon, dans l'ensemble, je partage vraiment grandement le diagnostic qui a été fait sur plusieurs choses. La diversité, c'était un des éléments que j'avais mis en lumière déjà depuis longtemps. D'ailleurs, un des graphiques qui est issu de ma
C'est vôtre.
Voilà. Mon nom a disparu entre temps, mais c'est le jeu de circulation des PowerPoint. Je voudrais revenir sur. Les faiblesses et les atouts, parce que me semble-t-il qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu contradictoires dans la façon dont on raisonne cette question des faiblesses, notamment l'histoire de la productivité des actifs de rôle, parce que j'entends ça souvent. Alors vous avez donné le chiffre de 4 UTA par
100 hectares.
Par 100 hectares, oui, c'est ça. Alors, moi je suis à peu près au même résultat. Pourquoi on attend du TA en Rhône-Alpes par hectare? Eh bien parce qu'une grosse partie de notre production est transformée dans les fermes, est vendue dans les fermes. Et quand on fait la production, c'est quelque chose qui nous échappe totalement.
C'est quelque chose qui nous échappe totalement. Et du coup, quand on regarde effectivement la productivité par rapport à la production brute, on peut être amené, et malheureusement, c'est un discours qu'on entend beaucoup de la part des organisations professionnelles, de dire qu'il y a une sous-productivité du travail en Rhône-Alpes dans le domaine agricole. Et ça n'est que, ça n'est que très partiellement vrai, je pense que c'est faux en partie. Ça sous-entendrait qu'il faut continuer à agrandir les fermes, etc. Mais ça masque en même temps tout le travail qui peut être fait dans des aspects que vous avez soulignés comme étant des atouts, à savoir la diversité de cette agriculture, la proximité d'un bassin de consommation qui permet à des exploitations de vendre en direct, de transformer des produits, de le faire à travers des coopératives, des groupements. Je ne suis pas un fanatique de la vente directe, mais pour dire qu'il y a plein de possibilités. Et encore une fois, la production brute nous échappe en partie. Alors on a quand même évoqué... quelques éléments. Tout à l'heure, Johan a montré ce site là où ça défile. Hein. Et en disant, est-ce qu'on pourrait faire la même chose en Rhône-Alpes? Alors, je reviendrai sur la question des indicateurs tout à l'heure, mais j'avais fait quelques calculs. Si vous regardez en 10 ans le nombre d'exploitations, si on avait un compteur qui tourne comme ça, on en aurait 6 par jour qui disparaissent en Rhône-Alpes. Hein. 6 par jour. Le compteur tourne, il y en a 6 par jour qui ont disparu entre 2000 et 2010. Et on était nombreux à penser que ça allait se ralentir, parce qu'on a un recensement que tous les 10 ans, j'y reviendrai, mais on était nombreux à penser que ça allait se ralentir entre le recensement 88 et celui de 2000. Il y avait déjà eu une grosse perte, on se disait quand même, là on touche le fond, il y a des jeunes et tout. Et en fait, c'est quand même assez surprenant de voir encore qu'en 10 ans, 30%, un peu plus de 30% des exploitations ont disparu. Si on regarde les actifs, c'est la même chose. 30% ont disparu. Et pour la question des hectares, puisqu'on s'interrogeait un petit peu sur le département de la Savoie en 10 ans, donc j'ai quand même regardé les chiffres. On a perdu à peu près 91 000 hectares de SAU, effectivement, en 10 ans en Rhône-Alpes, sachant que la SAU de la Savoie est de 110 000 hectares, 116 000. Voilà. Donc ça vous donne, on n'est pas tout à fait à ça. C'est pas tout le département de la Savoie dont on parle, c'est la SAU, la surface agricole utile. Mais effectivement, on n'est pas très loin de ça. Et donc si je reprends mon compteur, eh bien c'est 25 hectares par jour, c'est-à-dire un toutes les heures hein, qui tourne seulement sur la région Rhône-Alpes. Voilà. Donc je trouvais intéressant d'apporter ces petits éléments. Si on regarde la valeur, la production, là aussi, on en a perdu à peu près 11% en production brute. Et pour le coup, c'est là que j'appelle encore une fois à de nouveaux indicateurs économiques, parce qu'on ne connaît pas très bien la façon dont en fait, c'est valorisé la valeur ajoutée qui reste dans les fermes et un ensemble de choses comme ça. Voilà. Alors ça, c'était par rapport au diagnostic. Je rajoute un dernier point, c'est que moi, dans les caractéristiques de l'agriculture rhône-alpine, j'avais ajouté la reconnaissance de la multifonctionnalité, la reconnaissance sociale et politique de la multifonctionnalité de l'agriculture, bien avant qu'on parle de multifonctionnalité. D'ailleurs, on n'en parle plus beaucoup, on parle de services écosystémiques, maintenant d'autres choses, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que quand on examine dans la durée l'agriculture de Rhône-Alpes et sa relation au territoire au pluriel, eh bien, en fait, on a vu bien avant d'autres régions ce rôle d'aménagement qu'elle avait, ce rôle ménager, comme disait Pisani quand il disait marchand et ménager. Et je trouve que nos diagnostics agricoles sont trop souvent centrés sur l'aspect marchand de l'agriculture et sans doute pas assez sur l'aspect ménager. Il y a une spécificité aussi là de l'agriculture rhône-alpine, y compris qui est intégrée en partie par les organisations agricoles, plus qu'ailleurs. pas encore assez pour certains, je le sais, mais plus qu'ailleurs, il faut le dire. Voilà. Alors, oui.
Qu'est-ce qui fait que on s'est lassé de la dimension multifonctionnalité? Parce qu'elle était plutôt en bonne voie.
En fait, je pense que... Alors, moi, je suis très embarrassé pour répondre. Je pense qu'il y a des effets de mode quand même dans la recherche qui font qu'à un moment donné, le mot est sorti, des pays se sont constitués en amis de la multifonctionnalité, il y a eu énormément de recherches, de publications, et puis c'est redescendu. Mais je dirais l'idée que l'agriculture joue un rôle dans l'aménagement, dans la cohésion sociale, etc., n'a pas disparu pour autant. C'est le terme qui est moins utilisé, en fait. Voilà. Sachant qu'au Québec, le terme est en train d'émerger et on l'utilise à tout bout de champ. Donc, si vous voulez, il y a aussi des effets de contamination comme ça qui se retardent un petit peu. Ouais. Alors, quelques mots, mais je voudrais laisser la parole après aux deux intervenants. Donc, je vais être rapide par rapport à ce projet que Johan mène avec beaucoup de force et de conviction d'essayer de réunir les scientifiques, les acteurs économiques, les groupes sociaux, les collectivités pour essayer de caractériser, d'optimiser l'utilisation des ressources à l'échelle régionale. Optimisation, je pense, ici, on retrouve ce que disait Michel Serres, à savoir, c'est à la fois le stock et la promesse. Et j'ai beaucoup aimé le terme de promesse, pour ceux qui étaient hier, parce que je trouve qu'il exprime, au fond, assez bien ce que nous, on aurait tendance à appeler potentiel ou je ne sais pas quoi. Mais cette idée de promesse était intéressante. Voilà. Et je trouve qu'il y a quelques mots clés derrière tout ça quand on va essayer de raisonner sur une région comme Rhône-Alpes. Le premier mot clé, me semble-t-il, c'est l'échelle. Quelle est l'échelle de mesure, d'observation, de discussion, de gouvernance, etc. Donc là, on est aujourd'hui en train de discuter autour de cette échelle régionale. En même temps, on voit bien qu'il y a des problèmes globaux, le réchauffement climatique. Monsieur Piaton en a parlé tout à l'heure, comme étant une des choses à traiter, y compris localement. Et puis, on a des infra-dimensions. On descend beaucoup plus finement sur un certain nombre de choses. Juste le registre parcellaire dont on dispose en Rhône-Alpes, c'est plus 700 000 unités parcellaires. Et puis, je crois que si on va plus loin, l'IGN dispose d'une base sur les objets paysagers, c'est plus de 3 millions de lignes. Hein. Donc, on peut descendre à des niveaux extrêmement fins. Et je pense que, du coup, ça interroge quand même la façon dont on combine tout ça. Deuxième mot, c'est celui des ressources. Et là, je voudrais, c'est les sciences sociales qui vont un peu parler, rappeler que d'un point de vue des disciplines en sciences sociales, le mot « ressources », se définit comme une espèce de métasystème qui associe un objet et un système de production. Et derrière ça, il y a l'idée qu'une ressource n'est ressource que si il y a un système de production ou une intention de production derrière. Je crois qu'on a beaucoup parlé objet et on a au fond, à part peut-être l'intervention du début de matinée, on a moins parlé des systèmes de production et du fait que derrière ça, il y a des sociétés humaines, des personnes, etc. Et donc, dans cette hypothèse, la ressource n'existe que si il y a une intention de production, si on projette quelque chose sur cet objet, et elle est toujours liée à un usage réel ou potentiel. Alors, ça m'amène à un troisième mot qui est celui d'acteur. Pour le coup, si on admet cette idée de la ressource, on a ces acteurs. Alors, ils ont été présents aujourd'hui, hier, dans les discussions. On les appelle souvent les parties prenantes aujourd'hui. Et quand on a travaillé avec Johan sur l'écriture du projet, on avait essayé de... Parce que l'idée, c'était de mobiliser les acteurs. Et on s'est aperçu que, même à une échelle comme celle de la région, ne serait-ce que lister les acteurs concernés par cette question des ressources, c'est un travail d'une incroyable complexité. Voilà. Et ça m'interroge même sur la faisabilité. Alors, quelle est la légitimité de chacun, la répartition des responsabilités entre eux, notamment entre la question du public et du privé. Hier, Monsieur Vieille il va revenir d'ailleurs, il a parlé de sa responsabilité comme entrepreneur. Hein. On voit bien en même temps qu'on ne peut pas laisser tout ça qu'aux entreprises qui sont dans les logiques économiques et qui a un rôle du politique. Enfin voilà, il y a vraiment des questions, me semble-t-il, extrêmement importantes. Le quatrième mot que je voulais évoquer, c'est celui d'indicateur. Là aussi, M. Weber va revenir présenter ça. Il a rappelé la tentative qui avait été faite de comptabilité du patrimoine naturel dans les années 90 en France. À ma connaissance, il n'y a que deux pays au monde qui avaient fait ça. Vous me direz si je me trompe. Je crois que l'autre pays, c'est la Norvège. Et je me trompe, il y en avait d'autres. Alors, donc, la France était le seul pays.
Les morues, ils ont fait un compte des morues.
Oui.
Ils ont cherché à faire un compte des... Mais il y a bien deux pays, par contre. La France et l'Espagne.
Alors, la France et l'Espagne. Donc, je corrige, je m'excuse. Enfin, toujours est-il que ça a été une tentative extrêmement ambitieuse de faire quelque chose qui, je crois, a été arrêtée, sans doute pour des raisons de coût. Et donc, ça nous renvoie à cette question des indicateurs. Quels indicateurs nécessaires par rapport à notre question régionale, encore une fois. Et là, ça m'amène à mon cinquième et dernier mot, qui est celui de technologie. Parce que ce qui m'a frappé au fond, c'est qu'on a des outils aujourd'hui disponibles qui sont absolument extraordinaires, mais on est aussi dans une situation paradoxale. On a des outils extraordinaires qui permettent en temps réel de donner un certain nombre de choses. On sait faire des capteurs. On a des technologies extrêmement pointues. Les systèmes d'information géographique sont en train de gagner en puissance, etc. Et puis, en même temps, on a un recensement agricole tous les 10 ans. On doit mesurer l'évolution des représentations sociales sur les ressources. Je ne me souviens plus de son nom, le monsieur qui est intervenu en premier hier a appelé les institutions informelles. Et tout ça, on ne peut pas mettre des capteurs. On ne sait pas faire en sciences sociales. Voilà. C'est difficile. On peut faire des sondages de temps en temps, mais on sait qu'on est dans la lenteur. Et, voilà. Et donc, à ce besoin d'informations immédiates, auxquels répondent en partie les outils de plus en plus performants dont on dispose, eh bien, on a aussi une question du temps qui, me semble-t-il, est aussi problématique, puisque si on admet l'idée que les ressources, c'est à la fois des acteurs et des usages, ou des objets et des systèmes de production, on sait que pour les systèmes de production, on aura beaucoup plus de mal à avoir des bases de données qui s'alimentent en permanence avec des capteurs très fins. Et du coup, alors ça en revient un petit peu à la conclusion de Michel Serres aussi, qui disait attention de ne pas basculer dans l'analytique uniquement et de garder un petit peu de l'esprit qu'il y avait dans le projet, à savoir être synthétique et essayer de faire du global. Voilà. Donc du coup, je pense, ce sera ma conclusion, qu'il y a vraiment un travail de fond à conduire sur la façon dont on arrive à marier ces logiques. Pour ma part, je suis encore dans la perspective sans hypothèse, en fait. Je ne sais pas encore comment on va faire. Et donc, je lance un peu le débat. Il y a un enjeu qui me semble fondamental, mais on est quand même, je trouve, encore un peu démunis. Chaque discipline est capable de parler de ses avancées. Et c'est ce qui s'est passé hier, au fond. Mais on a encore, alors chacun va donner ses bases. Donc du coup, celui qui est spécialiste dans une discipline, il dit bon, tout ça, je connais déjà. Et puis dans une autre discipline, il apprend des choses. On a une forme de naïveté finalement sur l'état d'avancée des autres disciplines que les nôtres tous. Et on a du mal à voir comment on va mettre tout ça en musique. Et je trouve que c'est tout l'enjeu de ce projet. Voilà, merci. Et donc, je passe la parole à Monsieur Vieille.
Le temps que...
Oui.
J'ai beaucoup aimé le chiffre des 24 hectares qui disparaissent par jour, parce que c'est absolument symbolique, quoi.
Voilà.
Juste, puisque vous avez étudié ça de près, ils deviennent quoi, ces 24 hectares? Des parkings, des autoroutes, des...
Alors, du coup, là, vous me posez une colle, parce que je n'ai pas regardé dans le détail. Mais je peux vous dire, globalement, ils deviennent un peu de la forêt. Enfin, même un peu plus qu'un peu, et puis un peu de l'urbanisation, c'est-à-dire que ça se répartit entre forêt et urbanisation. Je ne sais pas si vous avez des chiffres plus précis, Monsieur Piaton. Voilà. Mais globalement, c'est plutôt plus de forêt que d'urbanisation quand on prend la totalité, tout simplement parce qu'effectivement, un certain nombre de terrains sont abandonnés par des agriculteurs dont les fermes deviennent de plus en plus grosses et dont les outils ne rentrent plus dans les parcelles de plus en plus petites qu'on a dans un certain nombre d'endroits.
Voilà. Comme ça, c'est peut-être...
Oui, mais abandonner, ça veut dire forêt. Ce que disait monsieur, je ne sais plus qui tout à l'heure, il n'y a pas d'abandon pur. C'est-à-dire qu'une parcelle, elle va éventuellement être abandonnée et derrière la friche s'installe de bois.
Quand même, sur ce sujet, une petite précision. Prenons une exploitation de montagne traditionnelle. Vous aviez dans ces exploitations de montagne traditionnelles une parcelle dans le fond de vallée qui était la parcelle mécanisable qui permettait de faire des céréales, etc. Et puis après, vous aviez des parcelles... Voilà. Donc, elles n'ont pas tous le même poids, quoi. À partir du moment où vous avez supprimé la parcelle plate en fond de vallée, vous avez supprimé l'exploitation. Et donc, du coup, les parcelles qui sont sur les... elles deviennent de la forêt.
Petite question pour ma part aussi. En parlant des systèmes d'exploitation et la difficulté d'avoir des données dans des pas de temps suffisamment compatibles avec l'inventaire des ressources physiques.
Oui.
Est-ce que je suis excessivement naïf en imaginant ce qu'on voit apparaître d'ailleurs de plus en plus dans les différents systèmes d'interaction dans nos sociétés, c'est-à-dire une sorte de base de données participative. Est-ce qu'on peut imaginer que certains acteurs alimentent
alors,
sur ces dimensions-là les données?
J'aurais tendance à répondre oui, bien entendu, et elles le font en partie déjà. Il y a des, je pense à des associations environnementales qui disposent d'une connaissance absolument fine d'un certain nombre dans leur domaine, et donc c'est peut-être une des façons d'essayer de progresser. Ouais. Voilà. Mais après aussi la question des indicateurs, et je reviens à la question qui était posée tout à l'heure sur ce que deviennent les terres. Il faut aussi voir que les indicateurs qu'on a, eh ben, ils fixent des bornes à un moment. On appelle une exploitation agricole quelque chose qui ressemble, qui répond à une certaine définition. Et on sait aussi qu'on a des gens aujourd'hui qui vont, pour des raisons diverses, aller habiter à la campagne et avoir un petit peu de terre. Bon. C'est pas des exploitations agricoles, ça disparaît de la SAU, ça reste de l'agriculture parce qu'ils y font un jardin et un verger familial. Et là aussi, c'est la difficulté qu'on a toujours en sciences humaines, c'est que derrière les indicateurs, on s'intéresse aussi à la façon dont ils ont été construits, de telle manière à pouvoir essayer de voir s'ils nous donnent absolument le reflet exact de ce qu'on cherche à savoir, ou pas tout à fait. Et souvent, c'est pas tout à fait.
Je rejoins aussi cet aspect-là, moi, le côté naïf. Travaillant sur beaucoup de collectivités territoriales, notamment dans les conseils de développement, et puis essayer de mettre en forme des agendas 21, l'échelle d'information. Quel est le rôle de l'INSEE? On a des difficultés énormes à sortir de l'information simplement type national pour essayer de mesurer au niveau local. Par exemple, ce que fait l'INSEE ou autre. Quel est le rôle de l'INSEE ou quelles sont les institutions capables, justement, d'offrir des informations à des échelles locales adaptées? Ce n'est pas spécifique à Rhône-Alpes, mais il me semble que cette question est posée sérieusement par les chercheurs pour voir comment, effectivement, avoir au moins une partie de ce qui sort dans l'INSEE au niveau local.
Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir répondre sur l'INSEE. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre. Je peux juste témoigner comme chercheur de la difficulté parfois à avoir accès effectivement à un certain nombre de données. Et je pense à celle d'Agreste que je connais très bien parce que c'est plutôt... Agreste, c'est celle du ministère de l'Agriculture. Hein. Voilà. Ce qu'il faut... Alors, juste un point tout bête, hein, c'est que maîtriser la donnée, c'est maîtriser de la connaissance, c'est maîtriser du pouvoir. Bon. Et pour le coup, tout bêtement, il y a une concurrence...
Donc le local n'a pas besoin de pouvoir.
Si, mais il y a une concurrence sur l'accès aux données et sur la façon dont elles sont, à un moment donné, laissées à la disposition de tous. À cela s'ajoute la préservation de l'anonymat, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, un point extrêmement important aussi, c'est que moins on a d'exploitation agricole sur les territoires, plus on tombe dans le secret statistique de façon mécanique, parce qu'il n'y a plus qu'une exploitation par village. Du coup, on n'a plus d'informations. Voilà. Et le seul moyen de pouvoir quand même produire de l'analyse, c'est de pouvoir dépasser cela et de disposer des données individuelles. Mais pour disposer des données individuelles, on tombe dans d'autres types de difficultés. Et je pense que, sans doute, il y a des progrès possibles en termes de conventionnement avec les instituts, etc.
Vous avez parlé des échelles. Quelles sont les structures capables de donner ces informations au niveau d'une échelle X
Alors, encore une fois, si je prends le recensement agricole, on descend jusqu'à la personne. Ils ont tout. Pour l'INSEE, je ne veux pas répondre, je connais moi-même.
Je vais juste donner un éclairage. L'ARF, l'Association des régions de France, est en train de conventionner avec l'INSEE pour pouvoir avoir une approche plus fine. L'ARF a développé une batterie d'indicateurs de développement durable qui intègre les surfaces agricoles et leur devenir et comment elles évoluent. Et l'INSEE a été sollicité et puis nous, on va un peu plus loin. On a essayé de trouver à homogénéiser les données INSEE avec l'Eurostat, qui nous paraît très important pour la régionalisation, justement, et pour le développement d'une comparaison à l'échelle régionale européenne.